Et à la veille de cette séance de repêchage que nous présenterons en direct sur nos ondes demain à compter de 18h30, allons à Berlin retrouver notre ami Maxime Lapierre. Bonsoir Maxime.
Salut Mario.
Et avant même de commenter quoi que ce soit qui pourrait survenir demain, comme on l'a fait avec Guillaume jeudi dernier, on voulait revivre, que tu nous fasses revivre les souvenirs de ton année de repêchage. 2003, pour les initiés, pour les gens qui suivent ça de près, ça a été toute une cuvée 2003. T'as été un choix de deuxième ronde, Maxime, mais quelle place ça occupe dans tes souvenirs, ça, ce repêchage-là?
Ah, c'est définitivement le plus beau moment de ma carrière. On parle souvent de jouer en finale de la Coupe Stanley, de jouer ton premier match dans la Ligue nationale et tout ça, mais de rentrer dans ce monde-là, de d'avoir la chance d'entendre ton nom, surtout là dans ma situation, on avait été à Nashville, j'avais rencontré pas mal toutes les équipes de la Ligue nationale. Je m'attendais vraiment pas à sortir pour le Canadien de Montréal. Puis je m'attendais de sortir en première ronde. Puis à un moment donné, ça commençait à être long, j'entendais pas mon nom. Puis je t'avouerai que j'étais fâché un petit peu, là. Ça commençait à être long. Puis comme de fait, j'entends mon nom pour le Canadien de Montréal. Ça allait arranger les choses cette journée-là, parce que là je suis devenu heureux tout d'un coup. Puis je me considérais chanceux. Là, je regardais en entour de moi les gars comme Bob Gainey à l'époque et tout ça, là. Les anciens Canadiens qui me serraient la main, qui m'accueillaient dans la grande organisation du Canadien de Montréal. Ça va rester gravé dans ma mémoire à tout jamais. Puis cette journée-là, je me rappellerai toujours. Je marchais dans l'aréna après le repêchage. Puis à un moment donné, au deuxième étage, il y a quelqu'un qui crie mon nom. « Hey, Max! » Puis je me retourne, puis c'était Guy Carbonneau, qui à l'époque était avec les Stars de Dallas, mais avait quand même arrêté sa marche pour me féliciter. Puis tu sais, moi je le connaissais pas, Guy Carbonneau, je le connaissais de nom, là, bien évidemment, mais lui me connaissait pas personnellement, puis il a pris le temps d'arrêter pour me dire félicitations avec le pouce dans les airs, parce que lui, il savait ce que ça voulait dire de rentrer dans l'organisation du Canadien de Montréal.
Ben, je comprends donc. Maxime, une autre raison de regarder le repêchage de demain, toi, en 2020, depuis Berlin, c'est que tu vas regarder ça en compagnie d'un jeune homme de 18 ans qui évolue dans ton équipe professionnelle là-bas, qui sera vraisemblablement repêché dès la première ronde.
Oui, le jeune Lucas Reichel, demain, là, je pense qu'on va avoir une petite célébration en équipe là, avec tous les joueurs, sa famille et tout ça, pour essayer de regarder le repêchage. Il va être un petit peu plus tard ici, là, mais c'est spécial pour moi aussi. J'ai joué avec ce kid-là toute l'année passée. C'est un bon jeune, puis j'espère que ça va être une très, très belle journée, soirée pour nous, là, qu'il va être repêché ou il l'espère.
Eh bien, souhaitons bonne chance à ton jeune coéquipier, Lucas Reichel. Maintenant, je voulais te parler du processus d'entrevue, Maxime. T'es passé par là il y a bien longtemps, en 2003, je le rappelle. Je sais pas quels sont tes souvenirs de ces entrevues-là, mais est-ce qu'on a envie de dire ce qu'on pense vraiment ou on a envie de dire ce qu'ils veulent entendre, de ne pas déplaire?
Oui, t'as raison là-dessus, Mario. Premièrement, tu parles avec ton agent, hein. Tu t'attends à quelles questions on va te poser, quelles réponses tu devrais donner à certaines dans certaines situations. Pour moi, ce que je me rappelle, c'est que premièrement, maintenant je regarde en arrière, j'aurais aimé ça peut-être parler un peu mieux anglais à l'époque, parce que je trouvais que c'était difficile de m'exprimer. Je parlais pas si bien anglais dans ce temps-là, puis on dirait que c'était pas ma vraie personnalité qui sortait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Absolument.
C'est que je disais
ben
juste
oui.
Les réponses qui étaient préparées, auxquelles je m'attendais. Mais quand c'était le temps vraiment de dire qui j'étais, là, dans le fond, c'était qui Maxime Lapierre, c'était un petit peu plus difficile de ce côté-là. Puis c'est pas toujours les questions les plus faciles. C'est souvent des tests de caractère, parce que je pense qu'au bout, on veut pas savoir si t'es un bon patineur ou un bon joueur de hockey, parce que ça, ils savent, ils t'ont regardé toute la saison. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que t'es un bon kid, est-ce que t'as du caractère. Comment tu vas réagir à une critique? Parce que je me rappellerai tout le temps, j'avais rencontré une équipe, ils m'avaient demandé de donner ma note sur 10 sur mon coup de patin. Puis moi, dans ma tête, ben j'étais un des meilleurs patineurs dans la Ligue junior majeure du Québec à l'époque. Je me disais, ben je vais dire 7 pour pas avoir l'air trop tête enflée.
Oui.
Mais dans ma tête, c'était vraiment un 10, pour te donner un exemple à cet âge-là.
OK.
Puis quand j'ai dit mon 7, ils m'ont dit, ben pas en tout. T'es pas en haut d'un 5, tu sais.
Oh boy!
Puis là, j'ai vu là que c'était un test, savoir si j'allais dire, ben voyons donc, pas un 5. Si je pense que c'est un jeune réponse ça, t'es déjà dans le trou. Puis j'avais dit, Ben oui, peut-être que j'étais un 5, je devrais travailler là-dessus. Alors, puis je pense que de ce côté-là, c'est la réponse que eux voulaient entendre.
OK, tu penses qu'en disant OK, juste de démontrer que tu te faisais picosser, que tu allais travailler sur ce qui te reprochait, tu leur envoyais le bon message.
Ben je pense que c'est pas juste la réponse, c'est la réaction. Parce que là, c'est là que tu vois si le jeune il est prêt à prendre la critique puis de travailler pour l'équipe. C'est pas aussi simple que ça, parce que les entrevues, des fois, c'est vraiment long, comme je l'ai dit. Mais je pense que c'est vraiment un test de caractère, de connaître la personne. Ça a plus vraiment rapport avec le côté hockey.
Y a-tu des fois où t'es en entrevue puis tu dis qu'est-ce que je fais ici parce que tu sens pas d'intérêt chez tes interlocuteurs qui le font juste pour le faire ou ça arrive pas vraiment?
Oui, je pense que t'as un sentiment qu'une équipe te veut plus que l'autre. Des fois, on dirait que c'est vraiment une entrevue pour connaître tous les jeunes qui sont dans le repêchage. Parfois, tu sens vraiment que l'entrevue, c'est OK, si ils ont la chance de me repêcher, c'est certain qu'ils vont prendre. De ce côté-là, il y a vraiment un sentiment, là. Je pense que c'est réciproque aussi, hein. Les joueurs, ils savent un peu, surtout les gars de première ronde, ils savent un peu vers où ils vont sortir. Puis tu regardes les équipes, t'as un 5 à 10 équipes que tu dis ben ils vont probablement choisir où moi je serais situé, puis dans ce temps-là il y a une certaine connexion. Mais le repêchage, on s'entend, tu sais jamais ce qui va arriver dans le fond. À partir après les 5-6 premiers choix, là, ça peut bouger rapidement. Puis chaque équipe a son plan, chaque équipe a une opinion sur tous les joueurs, donc ça change rapidement.
Mais t'arrivais là avec des attentes donc à Nashville et t'avais des infos qui te disaient tu vas sortir en première ronde. Finalement, tu sors 61e au total, Maxime. Raconte-nous un peu le feeling du moment, parce que de choix en choix, c'est de longues minutes qui s'écoulent, là.
Ouais, puis maintenant, je regarde en arrière, j'étais jeune, tu sais, on connaissait pas vraiment ce monde-là, puis je me rappelle que pendant une longue période, durant le repêchage, j'étais enragé, là, pas à peu près, puis je me disais, voyons donc, comment, tu sais, à cet âge-là, tu te dis, comment ça, je suis pas sorti, mon agent, tu fais le travail, qu'est-ce qui se passe, puis c'est pas ça du tout, chaque équipe sélectionne, ils ont un plan, peut-être que le choix de repêchage, où j'allais sortir en première ronde, il y avait un joueur encore disponible, puis ils l'ont pris à ma place, puis après ça, ben, tous les équipes, il y avait pas mon nom sur leur liste ou peu importe ce qui arrive, mais quand j'ai entendu le nom du Canadien de Montréal, ça a réglé tous les problèmes dans ma journée. Je dis là, faut que tu sois mature dans tout ça, puis tu te dises, peu importe où je suis repêché, je vais faire mes preuves. Puis c'est ça qui est arrivé quand j'ai entendu le Canadien de Montréal. Pour moi, c'était pas, ce n'était plus une déception. Maintenant, c'était vraiment, là, je vais tout faire pour faire l'équipe. C'est chez nous, à la maison, puis je me considérais très, très chanceux.
Et là, on t'a fait revêtir le chandail sur l'estrade?
Oui, à l'époque, c'était les deux premières rondes qui étaient la même journée, là, si je me rappelle bien, le samedi. Puis c'était pas l'estrade, par contre, la deuxième ronde. On allait mettre le chandail sur le plancher, on rencontrait la table et tout ça.
Oui.
C'est là que le changement se passe dans ta tête. C'est que là, tu appartiens à une équipe, tu rentres dans une grande famille. Puis là, tu réalises que, ouais, ça, c'est juste le premier pas dans ta carrière, parce qu'il reste beaucoup de choses à accomplir avant de jouer pour de vrai. Là, tu regardes l'alignement, tu regardes tous les espoirs qui peuvent jouer, tous les joueurs de la Ligue américaine, puis tu te dis, ben, je suis mieux de m'entraîner cet été, parce que je me suis concentré toute l'année sur le repêchage, mais on est encore très loin du but ultime.
Et tu as dit, dès le début de l'entretien, quand on a abordé ça, Maxime, là, spontanément, que c'était ton plus beau souvenir en carrière. Puis, tu sais, les premières, ça doit toujours être un beau souvenir. La première fois que tu mets le pied dans un match au Centre Molson à l'époque, je pense pas qu'il avait changé de nom. Ton premier but, puis j'imagine, je m'en souviens pas, mais tous les premiers buts, on ovationne ici à Montréal. Fait que ça te donne une idée comment que c'était fort, la sensation du repêchage. Mais tant qu'à être là-dedans, repasse donc un petit peu sur ton premier but puis des autres premiers moments que tu as vécu en carrière là, après ton repêchage, qui t'ont donné de fortes sensations.
Ouais, je pense que le numéro 2 pour moi, c'est le premier appel quand le directeur général t'appelle à Hamilton pour te dire que là t'es rappelé puis tu vas jouer ton premier match dans la Ligue nationale. C'est certain que c'est un des plus beaux moments pour moi, là. Je me rappelle, j'étais dans le salon à l'époque, j'habitais avec Jean-François Jacques, qui était avec les Oilers d'Edmonton, parce qu'on partageait le club école ensemble. Ça, c'était un de mes amis d'enfance aussi, donc on était assis tranquillement, puis j'ai reçu l'appel. Là, tu es en sueur parce que là, c'est vrai. Tu t'en vas rencontrer les joueurs du Canadien. T'sais, moi, mon cas d'entraînement, là, ça n'avait pas été si long que ça. Là, en tant que choix de deuxième ronde, j'ai fait une coupe de pratique de match intra-équipe, puis j'ai pas appris à connaître les gars personnellement. T'sais. Donc, quand je suis rentré dans le vestiaire avec mon sac d'hockey, puis on me dit assis-toi à côté de Sakou Koivu. Mettons que j'étais très gêné cette journée-là, puis je me demandais, là, je suis où en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas quoi dire, j'étais nerveux. Puis c'est là que les joueurs, là, les Francis Bouillon, les Patrice Brisebois, tout le monde m'ont pris sur l'oreille, les Steve Bégin m'ont aidé, m'ont amené manger, m'ont guidé dans tout ça. Puis j'ai appris tellement là, de mes premiers pas justement dans la Ligue nationale de hockey.
Te souviens-tu de ce que tu as ressenti quand tu as marqué ton premier but, tant qu'à boucler la boucle avec ces sujets-là?
Ben oui, c'était à Montréal sur un lancer de Mike Komisarek, une déviation. Je me rappelle juste après le match, en arrivant chez mes parents, je pense qu'on avait regardé le but au moins une centaine de fois juste pour entendre la réaction de la foule puis tout ça. Quand t'entends ton nom être mentionné au Centre Bell, c'est un beau feeling, mais c'est pour moi, ça battait pas le feeling du repêchage puis de se faire appeler pour ton premier appel dans le fond dans la Ligue nationale.
Maxime, permets-nous quelques minutes supplémentaires. Plusieurs options pour le Canadien, sauf qu'on se rend compte d'une chose. S'il veut être actif sur le marché des joueurs autonomes, il doit se dégager une marge de manœuvre financière parce qu'en ce moment, elle n'est pas énorme. Ça implique des transactions. On a parlé de Domi, on a parlé de Byron. Il y en a qui parlent même de la possibilité d'échanger un Jonathan Drouin. As-tu une idée, toi, de ce qui est la meilleure avenue pour Marc Bergevin pour se donner un peu de marge de manœuvre là, sous le plafond salarial?
Ben, la meilleure avenue, non, mais je peux te dire qu'il y a plusieurs avenues, je crois, parce que si tu regardes l'alignement, là, comme tu viens de le mentionner, il y a beaucoup de gars qui vont devoir partir, là, puis il y a beaucoup d'options. Je t'en amène une autre, là, on parle de Byron. Je pense que si on compare un gars comme Byron Lekkonen, je trouve qu'on amène théoriquement la même chose là, comme impact dans un match de hockey. Un gars qui fait 3,4 millions, l'autre 2,4. Je trouve que c'est ces joueurs-là, malheureusement, là, parce que je l'ai déjà mentionné, je vais le mentionner pour être certain qu'un gars comme Byron, c'est un gars important, c'est un gars qui est bon dans le vestiaire et tout ça, mais à un moment donné, tu dois faire des sacrifices pour avoir une équipe gagnante. Puis au salaire qu'il fait, je pense que c'est un gars qui devrait partir, ça, tout dépendamment du plan, là, bien évidemment,
c'est
qu'est-ce qu'on va aller chercher.
Je pense que c'est clair. Là.
Ben, c'est ça. Je trouve que ce gars-là, c'est dur de lui trouver une place dans l'alignement. Puis on l'a vu l'an passé, là, il était pas toujours dans la bonne chaise. Puis pour moi, ça revient toujours à la même chose. On voit des chimies qui se créent là, avec les Armia, Suzuki, Drouin, Dano, Gallagher, Tatar. Je pense que c'est le temps d'aller chercher des alliés pour KK, puis de bien l'entourer. Je pense que ça va nous donner des trios solides. On est correct en défensive, hein, on s'entend. Là. Je pense que Marc Bergevin, c'est évident qu'il a confiance en sa défensive en ce moment. Faut vraiment s'améliorer à l'attaque, puis on n'aura pas le choix de bouger pour s'améliorer.
Que penses-tu des rumeurs concernant l'intérêt du Canadien pour un Patrick Laine? Ça a été démenti par Marc Bergevin la semaine dernière, mais il y a des rumeurs qui ont ressurgi là, au cours des dernières heures, alléguant que le Canadien est l'une des trois équipes qui aurait manifesté de l'intérêt, jusqu'à même peut-être mettre des noms sur la table. Est-ce que tu penses que Patrick Laine, ça peut représenter une acquisition intéressante? C'est bizarre s'il est si intéressant que ça qu'une équipe veuille s'en départir. On se dit toujours ça, d'ailleurs.
Ouais, ben écoute, Mario, il a 22 ans, il a compté 36 buts sa première année, 44 ensuite, 30 et 28. Donc, on s'entend que c'est un marqueur naturel, puis ça, j'apprends rien à personne. Mais ça dépend toujours de ce que tu as besoin dans ton alignement, puis ce que tu veux faire, quel est le plan. Si ça marche plus à Winnipeg, ben peut-être que c'est mieux pour lui et pour l'organisation qu'il parte. De notre côté, avoir un compteur naturel comme ça à jeune âge, comme Laine, qui, je crois, honnêtement, pourrait avoir une énergie différente dans un marché de hockey comme Montréal. Il connaît sûrement l'historique. On a des joueurs comme Kotkaniemi qui sont finlandais aussi. Je pense qu'il y aurait une certaine chimie qui se créerait naturellement là, de ce côté-là. Maintenant, c'est à quel prix? Ben, ça, c'est,
exact.
Je suis pas le style de gars qui croit à détruire notre organisation et notre plan pour un joueur. Je l'avais mentionné il y a quelques semaines pour un gars comme Taylor Hall. C'est la même mentalité pour moi du côté de Lainey.
Cheval Dehoff est le directeur général des Jets de Winnipeg. Mettons que on joue le jeu, là. Je suis Cheval Dehoff. Tu veux Lainey? Je te dis, moi, je veux Suzuki. Tu réponds quoi, c'était Bergevin?
Non.
Puis là,
non, je pense pas, parce que là, on construit en entour de Suzuki. Je pense qu'il est capable d'amener beaucoup plus dans le futur. Peut-être pas côté but là, et statistiques, mais côté valeur sur la patinoire. Parce que je crois qu'on est toujours attiré vers les statistiques, les buts, les assists et tout ça. Mais un gars comme Suzuki, je pense qu'il va être capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. C'est un gars aussi, faut pas oublier, un gars comme Suzuki rend les deux alliés meilleurs. Un gars comme Lainey, c'est un complément pour une ligne. Je pense que ça y prend deux bons joueurs avec qui jouer pour performer. À l'opposé, un gars comme Suzuki, je crois que peu importe qui tu mets sur son trio, il va trouver une certaine façon de les faire bien paraître.
Mettons que tu veux quand même aller chercher Lainey sans donner Suzuki. Je sais pas qu'est-ce que Marc Bergevin peut envisager de fournir d'autres à Winnipeg pour être vraiment dans la discussion. Puis on sait pas ce que les autres équipes vont donner non plus. Peut-être que Cheval Dehoff ira pas chercher autant qu'il pense. Et peut-être que donc la discussion va se déplacer vers un autre joueur. Mais tu sais, tu parles de Suzuki, puis... Ça serait quand même intriguant de voir un Lainey à côté d'un Suzuki, hein, à vous?
Ben exactement. Je pense que c'est ça que ça prend justement à Montréal. Ça prend un gars qui compte des buts naturellement. Que même quand il joue mal, il est capable d'avoir un lancé dans le match puis de compter un gros but. C'est, si je regarde l'alignement du Canadien en ce moment, c'est ça qui manque. On a le casse-tête, là, il commence à être plein. On commence à remplir les trous et tout ça, mais à chaque année, il fallait améliorer la défensive, on l'a fait, mais là, il manque un compteur de buts naturel. Ça va aider l'avantage numérique, puis ça va aider les joueurs qui font tout le travail aussi. Là. Parfois, là, tu regardes les matchs l'an passé, il y a des belles séquences, mais il manque juste ça, un gars que c'est naturel pour lui de la mettre dans le fond du filet, puis ça l'aiderait l'équipe. Il n'y a pas juste pas Lainey non plus dans la Ligue nationale. Là. Je suis certain qu'ils sont capables de compter de trouver un autre compteur de buts.
Es-tu d'accord pour dire que ça va prendre plus qu'une acquisition en attaque pour faire du Canadien une équipe qui sérieusement aspire à faire les séries, pas par la peau des dents, mais vraiment là, de façon régulière, puis même devenir un aspirant à la Coupe?
Ben oui, 100% d'accord avec toi, Mario. Puis si tu regardes les derniers champions de la Coupe Stanley, c'est évident, on appelle ça le papier sablé dans le monde du hockey. On a besoin des gros bonhommes pour complémenter les trios, justement, que ce soit le trio de Suzuki ou Kotkaniemi. Ça prend des gars qui sont capables de jouer au hockey, des gars pesants, des gars qui sont capables de jouer dans les deux sens de la patinoire. Puis si on est capable d'aller chercher ce style de joueur-là avec un compteur naturel, c'est pas si simple que ça, mais de ce que j'entends de Marc Bergevin dernièrement, je crois que son travail n'est pas terminé encore. C'est évident qu'on a vu là, quel style d'équipe qu'on avait là, dans les séries, les éliminatoires cette année. On sait qu'il manque pas grand-chose, mais c'est pas si simple que ça non plus là, avec le cap salarial, la situation avec le COVID et tout ça, on s'entend que les budgets sont différents. Donc, j'ai hâte de voir le côté créativité de Marc Bergevin cette année.
Je sais qu'il a démenti l'intérêt envers Lainey, mais comme il s'est moqué des offres hostiles pour en faire une quelques semaines plus tard, alors on s'empêchera pas d'en parler. Lainey donc a un salaire de 6 750 000 $ pour la prochaine saison. Il reste une année là sur ce contrat-là. Ça signifie, là à moins d'une catastrophe, mais je pense pas que ça arrive. Donc, ce gars-là va gagner beaucoup plus cher. Il deviendrait, si jamais tu fais son acquisition et donc tu le mets sous contrat à long terme, automatiquement, peut-être ton joueur le mieux payé de l'organisation, peut-être un salaire avoisinant celui de Carey Price, t'ajoutes son autonomie, etc. Est-ce que ça, tu penses que c'est le bienvenu dans un vestiaire? C'est-à-dire que les gars passent-ils par-dessus le fait que, oh, ça froisse-tu du monde, ça, ou au contraire, ils se disent, hey, regarde, enfin, un scoreur dans notre équipe, puis il sera payé le salaire qu'il mérite, on s'en fout.
Moi, j'ai jamais vraiment vécu une situation en tant que joueur où un gars était fâché parce que un joueur faisait beaucoup plus d'argent que lui ou peu importe. Là, je pense que chaque joueur analyse sa situation. Premièrement, c'est quand que tu signes ton contrat parce que d'année en année, c'est différent la situation. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est cette année en ce moment. Personne s'attendait d'avoir un virus comme ça. Personne s'attendait que le cap salarial allait être figé comme ça cette année. Donc, c'est un exemple là, chaque joueur est à une époque différente. La situation où tu signes dans ton équipe, est-ce que ton équipe est en voie de gagner la Coupe Stanley? Est-ce que ton équipe est en reconstruction? Tout le monde signe dans une situation différente. Donc, tu peux pas vraiment comparer ça dans une équipe de hockey. Puis, au contraire, si un joueur très bien payé arrive dans une organisation puis performe et amène l'équipe à un autre niveau, je pense que tout le monde va être heureux.
Maxime, il y a un élément qui empêche beaucoup de transactions parce qu'on en souhaite des transactions. Certains DG veulent en réaliser, mais ils ont tellement donné de clauses de non-échange à un paquet de joueurs qu'ils se sont menottés eux-mêmes. Et les joueurs ont ça comme pouvoir sur leur destinée. Que penses-tu des clauses de non-mouvement, Maxime, dans la Ligue?
Ben, je pense que pour certains joueurs, c'est très, très important, justement, là, comme dernier point pour faire closer le deal, comme on dit. Tu sais, souvent, là, la négociation, dépendamment de ton âge, là, ça se fait pas seul, hein. Les joueurs ont des femmes, ont des familles. Est-ce qu'on est bien dans, je te donne l'exemple des gars à Tampa Bay en ce moment. Les gars sont probablement très bien où ils sont. C'est certain que tu veux pas partir de là, puis tu veux qu'on te donne une promesse à long terme, parce que tu veux, faut penser aux gars avec des familles, t'installes tes enfants à l'école, tu veux qu'ils restent là avec leurs amis et tout ça. Donc c'est certain que les gars veulent une clause de non-échange. Cela étant dit, je crois que quand dans le futur les choses vont moins bien, il y a moins de temps de glace. Les gars sont pas fous non plus là, ils regardent les statistiques, ils regardent le cap salarial et tout ça. À un moment donné, tu réalises probablement que tu fites plus dans le décor, tu fites plus avec l'organisation. Puis j'aurais de la misère à croire qu'un gars resterait là en étant moins performant, en sachant que l'organisation le veut plus, puis il dira pas oui à être échangé. Ça, j'ai de la misère à croire ça. Donc, je crois que c'est au moment de la négociation, quand tu mets ton nom sur le papier, c'est un certain réconfort, mais 5 ans plus tard, 6 ans après, quand les choses vont moins bien, il y a toujours moyen de satisfaire les deux côtés.
C'est la cerise sur le sundae, là, au moment du mariage, mais avec le temps, ça vaut ce que ça vaut. C'est un peu ça.
Exactement.
Hey Maxime, ça a été super intéressant de t'entendre commenter tous ces dossiers-là et surtout de nous ramener dans le temps en 2003, à l'époque de ton repêchage. Ça nous rajeunit pas, mais c'était bien le fun. Merci beaucoup, Max.
Merci, Mario.
À bientôt. Bye-bye.
Bye-bye.